qu'on aime faire le dimanche matin, parce que la Bible est inspirée de Dieu. C'est pas juste un livre humain, c'est pas une chose qu'un homme a décidé, bon, j'ai une bonne idée, je vais écrire la Bible aujourd'hui. Non. C'est vraiment un livre que ça a pris des siècles et des siècles pour écrire. Il y a des... quelque chose? Oh, ok, ok, oui. Ben, c'est parce qu'il avait sa Bible déjà, dans, il était prêt. Hein? C'est pas un livre naturel et humain, mais les hommes saints ont été poussés par le Saint-Esprit, inspirés par l'Esprit Saint, et les pensées de Dieu, la volonté de Dieu est révélée dans ce livre. Donc vraiment, littéralement, la Bible, c'est Dieu qui me parle. Amen? Tout le monde dit la Bible, c'est Dieu qui me parle. Donc, on va prendre nos Bibles. Si vous avez pas une Bible avec vous, il y a une feuille à l'intérieur de votre bulletin qu'on va prendre et on va faire cette déclaration de foi parce que la Bible dit que qu'est-ce que tu dis avec ta bouche et qu'est-ce que tu crois dans ton cœur, ça accomplira. Donc, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va aller dans l'Ancien Testament aujourd'hui, au livre de Néhémie. Et c'est un de mes livres préférés, une histoire vraiment que j'aime bien dans la parole de Dieu. Et nous allons continuer une série qu'on a commencé il y a déjà 3 semaines sur prenant notre place dans l'histoire. Nous avons une place à prendre dans l'histoire de l'humanité. Savez-vous que vous n'êtes pas ici par hasard? Il n'y a personne ici par hasard. Il n'y a aucun individu ici sur la terre par hasard. Il n'y a aucune église locale qui est vraiment née de l'Esprit de Dieu qui est ici par hasard. Nous avons un rôle à jouer. Dieu a un plan qu'il a formé sur nous. Amen. Et si nous allons voir l'accomplissement, la réalisation de son plan, il va falloir comprendre notre place. Jésus revient bientôt, on l'a déjà dit, on a juste à regarder les nouvelles et regarder qu'est-ce qui se passe en Irak, en Israël, et on sait que ce sont les pays prophétiques, on voit, il y a des choses qui ont été prophétisées, il y a des milliers d'années, et les choses commencent à se réaliser. Mais avant que Jésus revienne, avant que toutes ces choses soient accomplies, l'Église de Jésus-Christ a une chose à faire. Et vous, en tant que membre de la famille de Dieu, en tant que membre de l'Église, vous avez un rôle à jouer. Vous avez quelque chose à faire. C'était le cas avec dans le temps de Néhémie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui sont entrés dans la terre promise, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi. Ils ont donné leur vie vraiment aux idoles, et au moment donné, ils ont été pris captifs. Vous vous rappelez de l'histoire, ils ont été emportés en Babylone. Savez-vous, n'est-ce pas, que vous savez, aujourd'hui, Babylone, c'est quel pays? C'est Irak. Hein? En fait, Saddam Hussein, il se considère comme Nebuchadnezzar. C'est pas une farce. C'est pas une farce. Il a dit pour vrai. Hein, c'est vrai. Ils ont même reconstruit et rénové le palais de Nebuchadnezzar aujourd'hui à Bagdad. Ils ont trouvé le lieu, exactement la même place où vous vous rappelez dans l'Ancien Testament où le droit a écrit sur le mur et tout est reconstruit. Lui, laisse-moi vous dire, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste une question des Nations Unies ou qu'est-ce qu'ils veulent faire. Dieu va faire qu'est-ce qu'il veut faire. Amen. Il y a des choses qui ont été prophétisées concernant Babylone. Et vous avez juste, c'est pas notre sujet ce matin, vous avez juste à lire dans la Bible. Et vous allez voir que tout est écrit en avance et tout va se dérouler comme c'est écrit. Amen. Mais le peuple de Dieu, il y a longtemps, ont été pris captifs en Babylone. Mais au moment donné, les Perses sont allés même conquérir les Babyloniens. Alors donc, à ce moment-là, Dieu a donné une faveur auprès de plusieurs leaders juifs qui étaient captifs. Et il y avait même un roi, et si j'ai pas le temps de tout expliquer, il y avait le roi des Perses qui qui a été prophétisé son nom même. Quelques centaines des années avant qu'il est Cyrus, c'est ça, c'est le roi Cyrus qui, merci, il était né 400 ans après que son nom a été écrit même dans les prophéties. C'est incroyable. Qu'est-ce que les prophéties qui ont été accomplies dans le temps de la parole de Dieu. Mais regarde bien. Lui, il a donné la permission aux enfants de Dieu, à Néhémie spécifiquement, d'aller et rebâtir les murs de Jérusalem. Il y avait en fait trois groupes de personnes qui sont retournées en Israël après avoir été pris captifs. Il y avait un groupe de personnes sous le leadership de Zerubbabel. Il y avait un autre groupe des personnes sous Ezra. Et là, le troisième groupe de personnes pour retourner, c'était les gens sous la direction de Néhémie. Et leur but, leur mission, c'était de reconstruire et rebâtir les murs de Jérusalem. C'était une tâche énorme parce que vous pensez à la grandeur de Jérusalem, à la hauteur du mur et à toutes les choses qui étaient nécessaires à faire. Tout était à terre, tout était brûlé et détruit, mais Dieu a donné faveur à Néhémie et Néhémie est allé avec une vision. Et il a partagé cette vision avec le peuple d'Israël. Et ils se sont mis à travailler ensemble pour rebâtir les murs. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que ça n'a pris que 52 jours pour le faire. Ils n'avaient pas les grosses machines comme nous avons aujourd'hui, hein? Il n'y avait pas de tracteur, il n'avait pas de camion, il n'avait rien sauf que les mains et les chameaux et les ânes. Mais dans 52 jours, ils ont rebâti les murs de Jérusalem. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue d'un monsieur, qui est allé dans un restaurant, et un genre de restaurant café. Il entre et puis il regarde, et dans le fond de la salle, il y a deux personnes là, il se tape les cinq et il dit « Hey, félicitations », il commence à dire « 52 jours, 52 jours ». Et puis quelques minutes plus tard, deux, trois, quatre autres personnes viennent et ils se félicitent en disant « 52 jours, 52 jours ». Et puis ça continue et au moment donné, il y avait une vingtaine de personnes autour de la table et ils regardaient la table en disant « 52 jours, 52 jours ». Et le monsieur, il était intéressé, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, il s'approche de la table, il regarde, il y a une casse-tête de Mickey Mouse sur la table. Il dit, c'est quoi cette affaire de 52 jours? Ils ont dit, hey, on est tellement fiers, sur la boîte, c'est marqué 2 à 3 ans, mais nous, nous l'avons fait dans 52 jours. Juste pour vous réveiller ce matin. Mais vois-tu, ça, c'est une chose. Faire une casse-tête de Mickey Mouse dans 52 jours, c'est une chose. Mais rebâtir les murs de Jérusalem dans 52 jours, ça, c'est une autre chose. Vous êtes d'accord? Donc, on voit que le peuple de Dieu, ils travaillaient ensemble. Ils avaient un rôle important à jouer dans l'histoire. Et ils ont pris leur place dans l'histoire. Ils ont fait quelque chose. Et on va juste lire à Néhémie, si vous avez trouvé la place. À Néhémie, chapitre 2. Et on va voir plusieurs choses bien intéressantes ce matin. Néhémie, juste après Esther, et on va lire en chapitre 2. Hallelujah. Parce que les enfants de Dieu ont été demandés de faire quelque chose, rebâtir les murs. Mais vous savez que Dieu vous demande de faire quelque chose aussi. Dieu nous a demandé de faire quelque chose. En tant qu'individu, vous avez quelque chose à accomplir. En tant qu'église locale, nous avons quelque chose à accomplir. La vision de cette église, c'est de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà par la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est un mandat qui vient pas de Pasteur Ken Taylor, mais qui vient de Dieu. Amen? C'est un grand mandat. Et c'est pas nous seuls qui allons le faire. Il y a plein d'autres assemblées et des églises locales qui vont faire leur part aussi. Mais nous avons quelque chose à faire. Et si nous ne faisons pas notre part, l'église de Jésus-Christ, l'église universelle va souffrir. Vous êtes d'accord? Ici, en Néhémie 2, 17, c'est marqué, je le dis alors, vous voyez le malheureux étant où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le roi a donné la permission à Néhémie d'aller à Jérusalem. Il a même donné les lettres pour lui donner l'autorité de demander aux forestiers de lui donner du bois et les matériaux nécessaires pour bâtir. Il avait la permission, il avait l'autorité pour bâtir. Il arrive à Jérusalem. Pendant 3 jours, il tape le terrain, il regarde la situation, il n'a pas dit un mot à tout le monde. Mais puis après 3 jours, il assemble tout le monde pour leur dire qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, pour lancer la vision que nous allons ensemble bâtir, rebâtir les murs de Jérusalem. Et il a dit, regardons les temps, regardons, Jérusalem est détruite, mais voici qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire, voici la faveur que j'ai eue auprès du roi, voici notre mandat. Amen. Et ensuite, le peuple avait besoin de répondre. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Je peux vous dire, ce matin, voici notre mandat de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà, par la puissance de la bonne nouvelle. Je peux le dire, mais à moins que vous répondiez, à moins que vous dites oui, à moins que vous fassiez votre part, l'œuvre et le travail ne s'accomplira jamais. Vous êtes d'accord? Donc, voici qu'est-ce que dit le Seigneur. On a une grande œuvre à faire, mais il faut le faire ensemble. Et en fait, il y a 3 choses qu'il faut faire pour prendre notre place dans l'histoire en ce qui concerne la réalisation des projets que Dieu a formés sur nous. C'était les mêmes 3 choses que les Israélites avaient besoin de faire, et c'est ce que nous avons besoin de faire aussi. Première chose, numéro 1, prenez votre décision. Et quand je dis prenez votre décision, c'est pas juste une décision que, oh ouais, peut-être si on a assez de temps libre, peut-être si j'ai pas d'autres choses à faire, on va se mettre à l'œuvre. Non, il y avait une grande œuvre à faire, on va rebâtir les murs de Jérusalem, Néhémie a dit, et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ici, dans vos notes, c'est marqué, c'est clair, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont pris une décision de qualité en disant Néhémie 2, 18, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Amen. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est pas juste Néhémie qui a dit lèvons-nous, c'est le peuple qui ont dit d'une seule voix, lèvons-nous et bâtissons. Amen. Tout le monde dit lèvons-nous et bâtissons. Ça prend une décision de qualité. Il faut prendre une résolution, pas comme une résolution qu'on fait au début de l'année parce que ça tient pas d'habitude. Vous êtes d'accord? Si on dit le 1er janvier, cette année, je vais manger moins des tartes au sucre, cette année, je vais manger moins de la poutine, je vais faire plus d'exercices. D'habitude, rendu au 28 février, vous avez tout oublié, votre résolution, n'est-ce pas vrai? Mais ici, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il demande? Et qu'est-ce qu'il exige? C'est que nous prenions une décision de qualité, c'est que peu importe le prix, peu importe combien ça coûte, combien de temps ça prend, combien d'efforts il faut mettre, lèvons-nous, bâtissons, nous allons faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire la volonté de Dieu pour votre vie individuelle et pour l'Église aussi? Prenons notre décision. Hallelujah. C'est comme Luc 14, 28 dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir avec ardeur, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » On a des choses à faire, on a des choses à terminer comme les Israélites avaient besoin de rebâtir les murs. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre votre place. Prenez votre décision et prenez votre place. Tout le monde dit, j'ai une place. Vous avez une place sur le mur. Et on peut lire le 3e chapitre de Néhémie et on voit que toutes les familles ont été organisées pour travailler sur une section particulière du mur. Chaque famille avait une place pour travailler. Amen. Et pendant des kilomètres et des kilomètres, à chaque place sous le mur, il y avait quelqu'un qui avait un devoir ou une tâche à faire et il le faisait avec ardeur et avec amour et avec une résolution. En fait, en Néhémie 3:20, c'est marqué après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur. Tout le monde dit avec ardeur. Une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Donc, qu'est-ce que ça va prendre? Si l'Église, la vie comblée, va accomplir le plan de Dieu avant que Jésus revienne, il faut que vous preniez votre place. Amen? On a fait l'illustration la semaine passée. On a montré qu'est-ce que ça donne si le pasteur fait tout le travail lui-même. Moi, je peux faire 4 voyages et chercher 4 personnes et on va se ramasser avec une église de 5. Mais là, on peut avoir 3 personnes, on l'a fait, avec 3 personnes qui sont allées chercher, ils ont fait 4 voyages chaque et on était rendu avec une trentaine de personnes. Amen? Si tout le monde fait sa part, si tout le monde amène sa provision, Dieu a placé en vous un don, il a placé en vous les capacités dont l'Église a besoin. Amen? Quelques-uns de vous, vous êtes des musiciens, on a besoin de plus de musiciens. Amen? Quelques-uns de vous, vous avez les aptitudes pour travailler avec les enfants, nous avons besoin d'avoir les personnes travailler avec les enfants. On a d'autres personnes qui sont bons pour regarder les choses naturelles, pour regarder et dire, écoute, il y a telle ampoule qui est brûlée, il y a telle chose qui a besoin d'être réparée, il y a telle chose qu'on peut faire au niveau de la construction, des rénovations. Et vois-tu, c'est pas tout le monde qui a ces aptitudes. Amen? C'est comme c'est pas tout le monde qui est capable de chanter, c'est pas tout le monde qui est capable de prêcher, c'est pas tout le monde qui est capable non plus de faire une belle jambe pour nettoyer la bâtisse, comme la famille Bergeron. Amen? Vois-tu, tout le monde a besoin de prendre sa place. Prenons notre décision et prenons notre place sur le mur et bâtissons ensemble. Lèvons-nous et bâtissons ensemble. Amen? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme la Bible dit en Éphésiens 4:16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Encore, imaginez si vous vous réveillez demain matin et juste 20% de vos membres fonctionnent dans votre corps physique. Hein? 80% de vos membres décident de ne pas fonctionner. Peut-être le genou droit dit non, pas aujourd'hui. Peut-être l'oreille gauche dit j'ai pas le goût. Peut-être l'œil droit dit, mais tu sais, je ne ressens pas vraiment que le Seigneur me dirige dans ce sens-là de fonctionner aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que j'ai dit 20%? Parce que si on regarde les églises, pas la vie comblée, parce que je pense que les statistiques sont mieux pour nous, mais si on regarde les églises, en général, en Amérique du Nord, 20% des membres des églises font 80% du travail. Ça, c'est une vérité. Amen? C'est 20% qui travaillent dans les ministères, et c'est 20%, même des fois 16%, qui donnent les dîmes et les offrandes. Amen? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les 20% qui sont obligés de travailler toujours et en tout temps sont épuisés. Et ceux qui ne travaillent pas sont frustrés parce qu'on ne peut pas être heureux sans fonctionner. Amen? Un muscle qui ne fonctionne pas devient faible, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? Si on n'utilise pas un muscle pendant un certain temps, ça devient très faible. Donc, c'est la même chose dans le corps de Christ. Il faut que nous prenions notre décision. Il faut que nous prenions notre place. Tout le monde dit, je vais prendre ma décision. Je vais prendre ma place. Et la troisième chose, c'est qu'il faut prendre vos armes. Prenez vos armes. Vos armes. A-R-M-E-S. C'est comme, vous savez, avec un nom comme Taylor, à Drummondville, à chaque place que je vais, il faut que j'appelle mon nom. Taylor, T-A-Y-L-O-R. Mais c'est un nom vraiment commun aux États-Unis. C'est comme, je ne sais pas, Leblanc. Imaginez si à chaque fois quelqu'un disait, je m'appelle Gilles Leblanc, Et L-E-B-L-A-N-C, vous direz, hey, écoute, franchement, je sais écrire. Mais quand je retourne aux États-Unis et quelqu'un me demande mon nom, je dis c'est Taylor, T-A-Y-L-O-N. Il me regarde, franchement, on sait écrire? Non, je suis habitué maintenant. Amen. Donc, prenez vos armes. A-R-M-E-S. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre vos armes? Parce que, laisse-moi vous dire une chose, quand vous prenez une décision de prendre votre place sur le mur pour bâtir ensemble, pour faire la volonté de Dieu, il y a des gens et il y a un ennemi en particulier qui ne sera pas content. Vous avez un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il peut dévorer. On l'a vu cette semaine. On a vu des personnes qui ont eu des attaques incroyables. Je viens juste de savoir, il y a un autre membre de l'Église que leur garage a passé par un feu cette semaine. Amen. Il y a tant de choses qui sont passées cette semaine, mais ce n'est pas par hasard. Et on a besoin de se réveiller et dire, nous sommes à la guerre. Amen. Tout le monde dit, s'il déclare la guerre en Irak, telle chose peut arriver. Laisse-moi vous dire, la guerre a déjà été déclarée il y a des milliers d'années. Amen. La bonne nouvelle, c'est que la guerre est déjà gagnée par le sang de Jésus. Amen. Mais nous avons quand même besoin de prendre nos armes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que l'ennemi était tellement fâché, et il voulait tellement décourager et faire en sorte que l'œuvre ne s'accomplisse pas. Et on va voir tantôt les ruses et toutes les armes que l'ennemi a utilisées contre les enfants d'Israël, parce que c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour se protéger contre l'ennemi? Ils ont pris leurs armes. Et on va lire juste quelques versets en Néhémie 4, 14. « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Donc, il a dit, n'ayez pas peur de l'ennemi. On ne devrait jamais avoir peur du diable. Amen. Mais la Bible dit qu'il faut combattre pour nos frères et pour nos sœurs. On a besoin de se protéger. Et qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a fait en sorte, pour donner confiance aux ouvriers, il y avait quelques personnes qui allaient travailler sur le mur, mais il a regardé plusieurs en arrière, avec les lances, avec les épées, avec les armes, pour protéger ceux qui travaillaient. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Je pense surtout à la protection dans la prière. On a besoin de prier pour ceux qui travaillent. Amen. On a tous besoin de travailler, mais on a tous besoin de prier pour les travailleurs aussi. Parce qu'il faut savoir que si quelqu'un surtout est en avant, ceux qui sont en train de diriger et ceux qui sont vraiment en avant du corps de Christ, c'est ces gens-là que l'ennemi va souvent attaquer. Il veut frapper à la tête pour faire disperser le troupeau. Amen. S'il frappe le berger, les brebis sont dispersées. C'est ça que la Bible dit. C'est pourquoi on a besoin de prier pour nos leaders spirituels, mais on a besoin de prier pour chaque membre de l'Église, parce que l'ennemi est fâché, ben raide, hein? Il est fâché, il est en colère, parce qu'il sait que son temps est limité, et il veut nous décourager. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que l'œuvre ne s'accomplisse pas. Mais l'œuvre va s'accomplir. Amen? Prenez vos armes. Regardons versets 16 et 18. Mais en fait, on va regarder verset 15. Ce n'est pas dans vos notes, mais verset 15 est fort. Alléluia. En Néhémie, chapitre 4, verset 15. Ce n'est pas dans les notes, mais c'est marqué, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Amen. Il y a beaucoup des attaques, beaucoup des problèmes qu'on peut avertir. Parce que quand le diable voit que, hey, ils sont avertis, ils sont au courant de nos stratégies, ils savent qu'est-ce qu'on va faire, ça ne donne rien d'attaquer là parce qu'ils sont prêts à nous repousser. Amen. Il y a bien des choses qu'on peut éviter. Mieux vaut prévenir que guérir. N'est-ce pas vrai? On vit dans un temps sérieux, mes amis. On vit dans un temps très sérieux. On a juste à regarder autour de nous. On a juste à regarder même qu'est-ce qui s'est passé à plusieurs de notre famille cette semaine. Et on voit, l'ennemi est cruel. L'ennemi veut nous tuer. Il veut nous égorger. Mais la Bible dit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous donner la vie avec abondance. Amen. Il y a plein des attaques, plein des choses qu'on veut, on peut avertir, et Dieu va anéantir le projet du diable si on prie les uns pour les autres et si on prend nos armes. Amen. Verset 16 dit, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, tout le monde dit en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. » Donc, est-ce que vous avez l'image? Chacun a pris une décision. Lèvons-nous, bâtissons. Chacun a pris sa place sur le mur. Voilà la place où je suis supposé de travailler. Et en travaillant, il avait quelque chose, un outil pour travailler, bâtir, et une arme, une épée, une lance dans l'autre main. Ils étaient prêts. Amen. Je travaille, mais si jamais l'ennemi montre sa face, il va être désolé de l'avoir fait. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut le faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur vous a demandé de faire? Sachez que ça soit travailler dans la pouponnière, que ça soit chanter. Laisse-moi vous dire que si vous êtes dans un ministère quelconque dans le corps de Christ, l'ennemi va vouloir, il va essayer vous décourager et vous déplacer. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on veille. Il faut qu'on soit sobre. Il faut que nous ayons toujours les armes avec nous. Et l'épée de l'esprit surtout. C'est quoi l'épée de l'esprit? La parole de Dieu. Plus la parole est dans notre cœur et plus la parole est dans notre bouche, plus on va pouvoir résister au diable. Résister au diable et il va prendre la fuite. Amen. Prenez votre décision, prenez votre place et prenez vos armes. Et ne soyez pas ignorants des stratégies de l'ennemi. Regardons Néhémie 6:9. On voit vraiment le but de l'ennemi, qu'est-ce qu'il voulait accomplir. C'est que tous ces gens, en effet, que l'ennemi a utilisés, tous ceux qui contestaient, qui venaient contre l'œuvre de Dieu, tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. N'est-ce pas fort? Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Si vous avez saisi. Je ne sais pas si j'ai saisi la langue française, mais je vais la saisir. Peut-être. Ce n'est pas grave. Dieu utilise des choses folles pour confondre la sagesse des hommes. Amen. Mais la parole de Dieu est claire. Pourquoi est-ce que l'ennemi venait contre le peuple de Dieu? Pour leur faire peur, pour les décourager, afin d'arrêter l'ouvrage. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut vous faire peur. Il veut que vous soyez dans la crainte. Il veut que vous soyez découragés. Et il veut que vous cessiez de travailler et d'œuvrer. Amen? Mais on va dire non. On travaille avec une arme dans la main. Amen? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je vais juste donner brièvement ce matin 5 choses que l'ennemi veut faire pour vous décourager, pour vous faire peur, et pour faire en sorte que l'œuvre soit abandonnée. Première chose, première arme de l'ennemi, parce que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, on sait qu'est-ce qu'il fait, Satan n'a pas de nouveaux trucs, il n'est pas créateur, il est quelqu'un qui aime imiter. Amen. Le diable, il prend qu'est-ce que Dieu a fait, il va tordre la réalité de Dieu, et il n'est même pas créateur, il n'a pas de nouveaux trucs dans son sac, c'est toujours la même affaire. Amen. Et à l'époque de Néhémie, la première chose que l'ennemi a fait pour décourager les enfants de Dieu, c'était la critique. Tout le monde dit la critique. On va le lire. Néhémie 4:1-3. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité, comme le diable aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Ah, qu'ils bâtissent seulement! Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Ah, oh, c'est pas grave s'ils bâtissent le mur, parce que c'est tellement faible que même si un renard marche dessus, ça va tomber. La critique. Combien de vous, vous aimez la critique? Qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un vous critique? Ça vous décourage? Ça vous donne le goût de dire, oublie ça, jamais plus, j'arrête. Amen? Même chose. Laisse-moi vous dire, si vous prenez votre place dans l'église, pour faire quoi que ce soit, vous commencez à chanter, jouer de la musique, ça se peut bien, je sais qu'est-ce que l'ennemi va vouloir faire, c'est envoyer quelqu'un, et d'habitude, c'est un croyant qui est charnel, quelqu'un qui est dans la famille, qui connaît pas assez sa Bible, qui connaît pas assez Dieu, pour venir dire, hey, mais tu sais vraiment, commence à critiquer la façon que tu chantes, critiquer la façon que tu joues la musique, critiquer la façon que tu fais quoi que ce soit. Est-ce que j'ai raison? Mais il faut que vous soyez prêts avec l'âme de la parole en disant, non, Dieu m'a rendu capable de la nouvelle alliance et je vais continuer, je vais le faire avec efficacité et je ne le fais pas pour les hommes, de toute façon, je le fais pour Dieu. Amen? Et si tu continues, si tu fonces, la critique va tomber comme l'eau sur les ailes d'un canard. Amen? Deuxième chose que l'ennemi fait, une fois qu'il sait que tu es en train de travailler pour Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu, parce que souvent, si tu ne fais rien pour Dieu, il va souvent te laisser tranquille. N'est-ce pas vrai? Il t'a déjà eu si tu ne fais rien. Mais si tu te lèves en disant, lèvons-nous, bâtissons, prenons notre place, prenons nos âmes, là, il va essayer de faire quelque chose. Et il va envoyer les attaques où il va te menacer. Les attaques directes, que ce soit physique, émotionnel, financier, il va vous attaquer, il va prendre toutes ses ressources, il va essayer de vous arrêter. Comme c'était le cas en Néhémie 4, 7 et 8. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Mais on a déjà lu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont placé les personnes en arrière avec les lances, les pierres. Ils ont travaillé avec les armes dans les mains. Et ils étaient prêts à résister les attaques. Et dès qu'ils ont su qu'ils ont été avertis, Dieu a anéanti le projet. N'est-ce pas merveilleux? Donc, si le diable vient vous attaquer, résistez-lui avec la parole et vous n'avez rien à craindre. Amen? Mais soyez prêts. Mettez votre armure à tous les jours. Numéro 3, les distractions. S'il ne peut pas vous critiquer, vous attaquer, il va essayer de vous distraire. C'est ça. Si le diable voit que vous êtes bien armé, vous n'êtes pas prêt à être découragé par ces choses-là, il va essayer de vous distraire. Les distractions vont venir. Verset 1 de chapitre 6 de Néhémie. Regardons, Néhémie 6, 1. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens! Et ayant ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono, ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Tout le monde dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. C'est fort, n'est-ce pas? Ils ont vu, les attaques ne donnent rien. La critique ne donne rien, ils continuent quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un message à Néhémie, lui demander de descendre du mur et d'avoir une conférence, un rendez-vous à Ono. Et, gloire à Dieu, il a dit, « Oh non! Oh non! J'ai une grande œuvre à faire! » Amen! Et je ne peux pas descendre. Parce que si je descends, l'œuvre sera interrompue. Soyons sobres, veillons. L'ennemi veut nous envoyer les distractions. Et souvent, les distractions viennent sous forme des bonnes choses. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que la Bible dit dans la parabole du semeur? Il y a quelques-uns qui sont, la parole est étouffée en eux parce qu'ils sont distraits par les richesses de ce siècle, les soucis de ce monde, etc., etc. Des bonnes choses, des fois, peuvent nous détruire et distraire. Amen? Faisons attention et prenons nos armes et on va refuser. 4 fois, c'est pas juste 1 fois. Il a envoyé 4 fois un message. Viens, descends du mur, descends. Il faut qu'on se rencontre. On va jaser. On va trouver une solution diplomatique à notre problème. Sûrement, il y a une solution diplomatique. Non, j'ai une grande œuvre à faire, je ne descends pas. Tout le monde dit, je ne descends pas. Alléluia, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas découragés. 4e chose, c'est les accusations. Verset 5 de Néhémie 6. Sambala m'envoya ce message 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations à Garsmu, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, revenir le roi. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis, là n'est pas. C'est toi qui l'invente. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois le plan de Satan? Il veut vous critiquer. Il veut vous attaquer. Il veut vous distraire. Et si ça ne marche pas, il va vous accuser. Il est l'accusateur des frères. Amen? Il va dire les choses qui ne sont même pas vraies. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Répondre avec la vérité. Amen? Non, il est écrit. Ce n'est pas vrai qu'est-ce que tu dis, c'est toi qui l'inventes. Amen? Mais surtout, laisse-moi vous donner une exhortation. Ne laissez pas l'ennemi vous utiliser pour accuser les autres. Amen? Ne soyez pas l'outil entre les mains du diable pour critiquer, pour distraire ou pour accuser les autres. Et finalement, on va terminer là. La 5e arme et 5e ruse du diable, c'est les tromperies, on peut dire les séductions. Les tromperies et les séductions. Néhémie 6, 12 à 14 dit, « Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur. » Encore, ça c'est le but du diable, que vous ayez peur. Mais l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. « Et que je suivrai ses avis et commettrai un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de l'opprobre. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Qu'est-ce qui arrive là? C'est que, après toutes les autres attaques, toutes les autres ruses que l'ennemi a essayées, ça n'a pas fonctionné. Donc, l'ennemi a envoyé des faux prophètes pour prophétiser en disant, « Oh, ainsi dit l'Éternel, tu devrais prendre la fuite. Il faut que tu te sauves. » Vois-tu? C'est important parce que, si l'ennemi sait qu'il ne peut pas nous avoir avec les autres 4 choses qu'on a mentionnées, il va essayer de vous séduire. Il va essayer de vous tromper. C'est pourquoi c'est important pour vous d'être soumis à l'autorité de la parole de Dieu, à l'autorité d'une église locale même, amen, parce que là, vous êtes protégés par la parole. Dieu ne va jamais vous demander quelque chose qui contredise la parole de Dieu, amen. Jamais, jamais. Dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, il faut qu'on soit armé avec la parole de Dieu, avec l'épée dans notre main pendant qu'on travaille, pour qu'on puisse résister au diable, résister à la critique, résister aussi aux attaques, résister aux accusations, résister aux distractions et résister aussi aux tromperies et séductions. Amen. C'est important qu'est-ce que je dis ce matin. Mais il ne faut pas que ça rentre dans l'oreille et sort par l'autre. Il faut que ça descende dans le cœur et qu'on devienne ceux qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Lèvons-nous debout. Jessica va venir jouer un peu de musique douce. Et on va prier ce matin. J'ai juste à cœur de lire, alléluia, un dernier verset pendant qu'elle joue. Alléluia. verset 15 de Néhémie 6. La parole de Dieu dit, « La muraille fut achevée. Le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. » Laisse-moi vous dire une chose, ce n'est pas nous qui devrions avoir peur dans ces jours. C'est le diable qui devrait avoir peur. Tous nos ennemis, toutes les nations furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu pour votre vie? C'est quoi la volonté de Dieu pour notre Église? On ne peut pas croire que le diable va se croiser les bras en disant, « Ok, bon, tant pis, ils vont de l'avant. » Non. Il va venir. Il va essayer avec toute sa force, avec la critique, les attaques, les distractions, les accusations, les tromperies et les séductions. Mais, on va pouvoir avoir le même témoignage. L'œuvre fut achevée. Amen. Et nos ennemis étaient dans la crainte. Nos ennemis étaient humiliés. Et tout le monde a reconnu, pas juste nos ennemis, mais tout le monde a reconnu que l'œuvre fut accomplie selon la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est ma déclaration pour cette Église, pour votre vie, pour ma vie, pour mes enfants. L'œuvre fut achevée et tout le monde a reconnu que c'était achevé et accompli selon la volonté de Dieu. C'est lui qui reçoit la gloire. C'est lui qui est digne d'honneur. Amen. On va prier ce matin. Je vous invite à réfléchir, à sonder votre cœur et à prendre une décision de prendre votre place, de prendre vos armes, afin qu'on puisse tous dire ensemble, lèvons-nous, bâtissons. Lèvons-nous, bâtissons. Père, au nom de Jésus, merci. On va se lever debout, on va se lever ensemble, on va aller de l'avant. On va bâtir ensemble. Chacun à sa place, fonctionnant dans sa grâce. L'Église va aller de l'avant. Je suis avec tous les yeux fermés. À chaque dimanche matin, on aime donner l'occasion à ceux qui sont présents de prendre la plus grande décision. Ça, c'est la décision d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si vous êtes ici et vous croyez dans votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il fut enterré et ressuscité le troisième jour, la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois avec ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin de prendre cette décision en disant, je veux savoir sans aucun doute que j'ai la vie éternelle, que j'ai une place préservée pour moi au ciel. Je veux accepter Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur. Je ne te demande pas de faire partie de notre église locale, mais je t'invite à faire partie de la grande famille universelle de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait oui, juste en levant la main, que j'ai besoin d'accepter Jésus? Levez la main si vous êtes là, vous avez besoin. Et donnez votre cœur à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va prendre juste 2-3 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, oui, il y a une personne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? Juste lèvez la main. On va prier. Je ne vais pas vous embarrasser. Je vais juste prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen. Il y a une autre personne. Deux personnes ont levé la main ce matin. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste vite, vite, on va prier. Ceux qui ont levé la main, je vous invite à faire cette prière avec moi. Et on va tous prier ensemble, toute l'Église ensemble. Mais surtout ceux qui ont levé la main, on va faire cette prière par la foi, avec sincérité du cœur. On va prier. Père Céleste, je m'approche de toi par la foi. J'ai besoin de toi. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, il est mon Maître. Je vais te suivre. Je vais t'obéir. Entre dans mon cœur par ton Esprit Saint et fais de moi une nouvelle personne. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité des morts et je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. C'est comme si je n'ai rien fait de mal. Je suis pur, lavé, blanc comme la neige. Au nom de Jésus, tu es mon Père, je suis ton enfant. Amen. Amen. La Bible dit que si quelqu'un se répand et vient à Jésus, que tous les anges des cieux se réjouissent. Amen. Donc, maintenant, tous les anges des cieux se réjouissent. Et c'est la meilleure décision que tu as jamais prise. C'est juste le commencement. Maintenant, il faut continuer à vivre avec le Seigneur Jésus. Si tu veux, on a, pour ceux qui ont levé la main, on a.